Ah, dit Blondet, tu mets le doigt sur un grand malheur. Si Marcel eût été compris, la Révolution française n'aurait pas eu lieu. Godefroy, reprit Bixiou, n'avait pas eu l'avantage de parcourir l'Europe sans observer à fond les danses étrangères. Sans cette profonde connaissance en chorégraphie, qualifiée de futile, peut-être n'eût-il pas aimé cette jeune personne. Mais, des 300 invités qui se pressaient dans les beaux salons de la rue Saint-Lazare, il fut le seul à comprendre l'amour inédit que trahissait une danse bavarde. On remarqua bien la manière d'Isaure d'Aldrigère. Mais, dans ce siècle où chacun s'écrie « Glissons, n'appuyons pas », l'un dit « Voilà une jeune fille qui danse fameusement bien ». C'était un clerc de notaire. L'autre « Voilà une jeune personne qui danse à ravir ». C'était une dame en turban. La troisième, une femme de 30 ans, « Voilà une petite personne qui ne danse pas mal ». Revenons au grand Marcel et disons, en parodiant son plus fameux mot, « Que de choses dans un avant-deux !» « Et allons, un peu plus vite, dit Blondet, tu marivaudes !» Isaure, reprit Bixiou, qui regarda Blondet de travers, avait une simple robe de crêpe blanc ornée de rubans verts, un camélia dans ses cheveux, un camélia à sa ceinture, un autre camélia dans le bas de sa robe, et un camélia. « Allons, voilà les 300 chèvres de Sancho !»« C'est toute la littérature, mon cher. Clarisse est un chef-d'œuvre, il a 14 volumes, et le plus obtus vaudevilliste te le racontera dans un acte. Pourvu que je t'amuse, de quoi te plains-tu? Cette toilette était d'un effet délicieux. Est-ce que tu n'aimes pas le camélia? Veux-tu des dahlias? Non? Eh bien, un marron. Tiens, dit Bixiou, qui jeta sans doute un marron à Blondet, car nous en entendîmes le bruit sur l'assiette. Allons, j'ai tort, continue, dit Blondet. Je reprends, dit Bixiou. « N'est-ce pas joli à épouser ?» dit Rastignac à Beaudenord en lui montrant la petite aux camélias blancs, purs et sans une feuille de moins. Rastignac était un des intimes de Godefroy. « Hé, bien, j'y pensais, » lui répondit à l'oreille Godefroy. « J'étais occupé à me dire qu'au lieu de trembler à tout moment dans son bonheur, de jeter à grand-peine un mot dans une oreille inattentive, de regarder aux Italiens s'il y a une fleur rouge ou blanche dans une coiffure, s'il y a au bois une main gantée sur le panneau d'une voiture, comme cela se fait à Milan au Corso, qu'au lieu de voler une bouchée de baba derrière une porte, comme un laquais qui achève une bouteille, d'user son intelligence pour donner et recevoir une lettre comme un facteur, qu'au lieu de recevoir des tendresses infinies en deux lignes, avoir 5 volumes in folio à lire aujourd'hui, demain une livraison de 2 feuilles, ce qui est fatigant, au lieu de se traîner dans les ornières et derrière les haies, il vaudrait mieux se laisser aller à l'adorable passion enviée par Jean-Jacques Rousseau, aimer tout bonnement une jeune personne comme Isaure, avec l'intention d'en faire sa femme si, durant l'échange des sentiments, les cœurs se conviennent, enfin être Werther heureux. C'est un ridicule tout comme un autre, dit Rastignac sans rire. À ta place, peut-être me plongerai-je dans les délices infinies de cet ascétisme. Il est neuf, original et peu coûteux. Ta Mona Lisa est suave, mais sotte comme une musique de ballet, je t'en préviens. » La manière dont Rastignac dit cette dernière phrase fit croire à Beaudenord que son ami avait intérêt à le désenchanter. Et il le crut son rival en sa qualité d'ancien diplomate. Les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. Godefroy s'amouracha si bien de Mademoiselle Isaure d'Aldrigère que Rastignac alla trouver une grande fille qui causait dans un salon de jeu et lui dit à l'oreille « Malvina, votre sœur vient de ramener dans son filet un poisson qui pèse 18 000 livres de rente. Il a un nom, une certaine assiette dans le monde et de la tenue. » Surveillez-les. S'ils filent le parfait amour, ayez soin d'être la confidente d'Isaure, pour ne pas lui laisser répondre un mot sans l'avoir corrigé. Vers 2 heures du matin, le valet de chambre vint dire à une petite bergère des Alpes de 40 ans, coquette comme la Zerline de l'opéra de Don Juan, et auprès de laquelle se tenait Isaure, « La voiture de madame la baronne est avancée. » Godefroy vit alors sa beauté de ballade allemande entraînant sa mère fantastique dans le salon de partance, où ces deux dames furent suivies par Malvina. Godefroy, qui feignit, l'enfant, d'aller savoir dans quel pot de confiture s'était blotti Joby, eut le bonheur d'apercevoir Isaure et Malvina embobelinant leur sémillante maman dans sa pelisse, et se rendant ses petits soins de toilette exigés par un voyage nocturne dans Paris. Les deux sœurs l'examinèrent du coin de l'œil, en chatte bien apprise, qui lorgnent une souris sans avoir l'air d'y faire attention. Il éprouva quelque satisfaction en voyant le ton, la mise, les manières du grand Alsacien en livrée, bien ganté, qui vint apporter de gros souliers fourrés à ses trois maîtresses. Jamais deux sœurs ne furent plus dissemblables que l'étaient Isaure et Malvina. L'aînée, grande et brune, Isaure, petite et mince, celle-ci les traits fins et délicats, l'autre des formes vigoureuses et prononcées. Isaure était la femme qui règne par son défaut de force et qu'un lycéen se croit obligé de protéger. Malvina était la femme d'avez-vous vu dans Barcelone. À côté de sa sœur, Isaure faisait l'effet d'une miniature auprès d'un portrait à l'huile. « Elle est riche !» dit Godefroy à Rastignac en rentrant dans le bal. « Qui ?»« Cette jeune personne. » « Ah, Isaure d'Aldriger. » « Mais oui, la mère est veuve, son mari a eu une Nucingen dans ses bureaux à Strasbourg. »« Veux-tu la revoir ?» Tourne un compliment à madame de Restaud, qui donne un bal après-demain. La baronne d'Aldriger et ses deux filles y seront, tu seras invité. » Pendant 3 jours, dans la chambre obscure de son cerveau, Godefroy vit son Isaure et les camélias blancs, et les airs de tête, comme lorsqu'après avoir contemplé longtemps un objet fortement éclairé, nous le retrouvons les yeux fermés sous une forme moindre, radieuse et colorée, qui pétille au centre des ténèbres. « Bissiou, tu tombes dans le phénomène !» dit Couture. « Masse-nous des tableaux !»« Voilà, » reprit Bissiou en se posant sans doute comme un garçon de café. « Voilà, messieurs, le tableau demandé. Attention, Fino, il faut tirer sur ta bouche comme un cocher de coucou sur celle de sa rosse. Madame Théodora Marguerite Wilhelmine Adolphus, de la maison Adolphus et compagnie de Mannheim, veuve du baron d'Aldriger, n'était pas une bonne grosse allemande, compacte et réfléchie, blanche, à visage doré comme la mousse d'un pot de bière, enrichie de toutes les vertus patriarcales que la Germanie possède, romancièrement parlant. Elle avait les joues encore fraîches, colorées aux pommettes comme celles d'une poupée de Nuremberg, des tire-bouchons très éveillés aux tempes, les yeux agaçants, pas le moindre cheveu blanc, une taille mince et dont les prétentions étaient mises en relief par des robes à corsets. Elle avait au front et aux tempes quelques rides involontaires qu'elle aurait bien voulu, comme Ninon, exiler à ses talons. Mais les rides persistaient à dessiner leurs zigzags aux endroits les plus visibles. Chez elle, le tour du nez se fanait et le bout rougissait, ce qui était d'autant plus gênant que le nez s'harmoniait alors à la couleur des pommettes. En qualité d'unique héritière, gâtée par ses parents, gâtée par son mari, gâtée par la ville de Strasbourg, et toujours gâtée par ses deux filles qu'il adorait, la baronne se permettait le rose, la jupe courte, le nœud à la pointe du corset qui lui dessinait la taille. Quand un Parisien voit cette baronne passant sur le boulevard, il sourit, la condamne sans admettre, comme le jury actuel, les circonstances atténuantes dans un fratricide. Le moqueur est toujours un être superficiel et conséquemment cruel. Le drôle ne tient aucun compte de la part qui revient à la société dans le ridicule dont il rit. Car la nature n'a fait que des bêtes. Nous devons les sots à l'état social.